RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui au Sénégal où le nombre d'infanticides est alarmant. La presse publie régulièrement des cas de nouveau-nés retrouvés dans une poubelle, un puits, une fosse septique ou un terrain abandonné. Des nourrissons tués à la naissance par des mères qui le plus souvent ont caché leur grossesse issue d'une relation hors mariage de peur du rejet de leurs proches. Cette terrible réalité est passée sous silence par les familles et par l'État alors que depuis des années déjà, la société civile propose, entre autres solutions, une dépénalisation de l'avortement, au moins en cas de viol. Comment expliquer que dans une société sénégalaise où les enfants sont généralement considérés comme un don du ciel, de nombreuses femmes en viennent pourtant à tuer le nourrisson qu'elles ont porté pendant 9 mois ? Infanticide au Sénégal, des mères bourreaux ou victimes ? Grand reportage signé Lou Garçon, Maria Matiam et Emmanuel Landais.
L'un des derniers cas qui m'a marqué le plus, c'est un cadavre putréfié qui a été retrouvé simplement avec quelqu'un qui faisait une marche arrière. Faisant marche arrière, il a écrabouillé, c'était dans un sac plastique.
Lorsque j'ai fini d'accoucher, je l'ai enlevé avec ma pagne. C'est une pagne tissu vax. J'ai entendu une voix de poubelle. Je l'ai jeté là-bas. C'est ça que j'ai fait.
C'est choquant de mettre un enfant au monde et puis de l'abattre comme ça sauvagement et de le jeter dans les ordures, c'est pas bon.
L'immense décharge de Mbeubeus dans la banlieue de Dakar, lieu de travail d'une communauté de 3000 récupérateurs. Chaque jour, 2400 tonnes de détritus sont déversées ici en provenance de tous les quartiers de Dakar. Les récupérateurs fouillent ces poubelles de la capitale à la recherche de déchets métalliques ou électroniques et tombent parfois sur de petits cadavres cachés dans des sacs, des seaux ou des valises.
Bon, on voit actuellement dans la décharge. Bon, c'est le grand décharge, qui s'appelle Wembley. C'est ici qu'on décharge toutes les ordures. Les gens vont trier les déchets. Et souvent, ce sont ces gens-là qui retrouvent les bébés. Bon, depuis que je suis là, dans un an presque, j'ai recensé 100 et quelques bébés.
Isidore Gomis est en charge de la sécurité sur les 115 hectares de détritus que constitue la décharge. Lorsque le corps d'un nouveau-né émerge au milieu des déchets, c'est cet homme, doux et à la taille imposante, qui doit contacter la police et lui remettre le petit cadavre.
Quand on retrouve un mort-né ici, ce jour-là, beaucoup de récupérateurs ne travaillent pas parce que ça fait mal. Je me souviens, il y avait un bébé qu'on a lancé ici dans une sachet plastique en bleu, les sachets de 100 francs. Bon, la femme, elle a déchiré l'ordonnance. Elle a déchiré avec des petits morceaux. Mais on essaye de rassembler ces petits morceaux-là pour essayer de trouver le nom. Mais on n'arrivait pas parce qu'il y avait beaucoup de sang aussi. Mais on n'avait pas l'occasion de découvrir la femme. Tout dernièrement, le mort-né qu'on avait trouvé, on avait trouvé avec des habits. Bon, la police a pris ses habits pour aller dans le quartier parce que le véhicule qui a déversé ces déchets-là, on connaît le secteur qu'il provient. Donc, la police est en train de... Ils ont une technique, peut-être, pour trouver ces coupables-là, mais c'est pas facile.
Incompréhensible et inexcusable pour les récupérateurs de Mbeubeus comme pour l'ensemble de la société, l'infanticide est un acte criminel extrêmement fréquent au Sénégal et pourtant recouvert d'une sorte de voile de silence. Traumatisé par ces découvertes macabres, Isidore Gomis, lui, n'hésite pas à évoquer la question.
Dans mon quartier, je sensibilise les gens, particulièrement les jeunes filles. Quand on découvre un mort-né, je vais la photographier. Je montre aux jeunes filles, regardez, j'ai reçu un bébé mort-né aussi au niveau de la décharge.
L'infanticide au Sénégal représente le quart des affaires jugées aux assises, selon l'Agence nationale de la démographie et de la statistique. Les prévenus sont souvent des jeunes filles qui ne sont pas mariées, parfois des épouses d'émigrés tombées enceintes en l'absence de leur mari ou des femmes dont le bébé a été conçu lors d'un viol. Dans tous les cas, ces grossesses sont non désirées et susceptibles d'engendrer un sentiment de déshonneur pour la famille proche. Comme chaque mardi, au palais de justice de Dakar, les chambres criminelles examinent plusieurs dossiers, des affaires de trafic de drogue ou d'agression sexuelle pour la plupart. Toutes les sessions ou presque ont aussi leur cas d'infanticide. Ce 20 février 2018, Seynabou Ndiaye, 29 ans, est invitée à se présenter à la barre. Cette mère de 2 enfants est accusée d'avoir tué son 3e bébé à la naissance. Devant le tribunal, La jeune femme évoque la terrible nuit où, ressentant les premières contractions, elle se précipite aux toilettes, n'allume pas la lumière et accouche seule, dans la pénombre. Au lever du jour, l'enfant est placé dans un seau, puis recouvert d'ordures.
Je suis engrossée jusqu'à 9 mois. Le samedi 15 décembre, j'ai accouché. C'est la troisième fois aussi. C'est pour cela que je n'avais pas le choix. C'est la honte qui m'a tient. Je ne pouvais pas dire ça à quelqu'un. J'ai vécu quelque chose de mal.
Ce jour-là, le tribunal condamne Seynabou à 5 ans de prison pour infanticide. Elle a déjà passé plus de 5 années en détention en attente de son procès et recouvre donc la liberté sur le champ. Depuis, la jeune femme aux cheveux coupés très courts et au regard fuyant s'est réinstallée dans la maison familiale, dans ce quartier populaire de la Médina à Dakar, où tout le monde se connaît et où tout se sait très vite. C'est ici pourtant que pendant 9 mois, Seynabou a réussi à cacher sa grossesse à l'ensemble de ses proches.
Oui, j'ai cassé ça. Je n'avais pas le choix. La famille avait un certain moment. J'avais des discussions, tout ça. Et j'avais peur aussi. J'ai dit que peut-être si je dis ça, on va me faire sortir ou on va me laisser. Et je ne connais qu'ici. Je n'ai jamais parti en voyage nulle part. C'est pour cela aussi, j'avais un certain moment. Je ne suis pas seule, franchement. Je n'avais personne à parler. J'avais le cœur plein. C'est ça seulement qui m'est arrivé. Mais je n'avais pas l'intention, franchement.
Avocat commis d'office par l'État sénégalais, Maître André Tiakane, s'est chargé de la défense de Seynabou et de celle de plusieurs autres femmes accusées d'infanticide. Comme pour ses autres clientes, condamnées pour le meurtre de leur enfant, le poids de la société était trop lourd à porter, explique-t-il, pour la jeune femme au parcours difficile, peu scolarisée et dépendante de ses proches pour sa survie.
La famille avait été assez sévère envers elle, aussi bien la première qu'après la deuxième grossesse. Parce qu'aucun des pères de chacun des enfants n'ayant assumé la responsabilité. Donc, en ayant un enfant dans ces conditions-là, elle amène une autre charge. Ce sont les réalités sociales, ce qui fait que quelquefois la famille peut, sinon être sévère avec vous, vous tournez le dos. Le troisième cas, c'est celui qui a amené les faits malheureux. Bon, là, elle n'a malheureusement pas voulu prendre le risque de s'exposer à nouveau à la vindicte familiale.
Les cas d'infanticide jugés par un tribunal ne représentent que la partie visible de l'iceberg, car il n'y a pas toujours dénonciation et de nombreux corps ne sont jamais retrouvés. Pour les nouveau-nés qui refont surface, il faut établir la cause de la mort. À l'université de Dakar, le médecin légiste Mohamed Souma est régulièrement confronté à ces bébés dont l'autopsie révèle qu'ils sont nés viables, avec à chaque fois les mêmes méthodes utilisées par les mères infanticides pour donner la mort.
C'est les moyens de bord. Ce sera une suffocation faciale, le fait donc de boucher les voies aériennes supérieures, le nez et la bouche par un obstacle, quel qu'il soit. Soit une suffocation laryngée, donc au niveau du larynx, par étouffement. Soit une strangulation et la noyade. Il suffit simplement d'un seau d'eau pour noyer un enfant.
Le professeur Mohamed Souma a voulu comprendre pourquoi tant de femmes de son pays en viennent à commettre l'irréparable. Il a réalisé 2 études sur les femmes incarcérées pour infanticide dans une maison d'arrêt de Dakar. En 2006, 21 détenues sur 108 étaient en prison pour avoir ôté la vie à leur bébé, soit 1/5 de cette population carcérale. 10 ans plus tard, cette proportion avait légèrement augmenté. Le profil des femmes infanticides et les facteurs déterminants, eux, n'avaient pas changé.
Ce sont des femmes qui, en général, viennent de milieux défavorisés. La plupart n'ont jamais été scolarisées. Des niveaux en matière de salaire qui sont très faibles. La constante pour toutes ces femmes, que ce soit en 2006 ou en 2015, c'est la dépendance économique vis-à-vis d'une autre autorité, notamment l'homme qui était auteur de cette grossesse. C'était aussi la porte ouverte à des grossesses non désirées.
Pour la majorité des cas, la grossesse a été cachée à l'entourage en raison d'un sentiment de honte et de la crainte d'un rejet des siens. Et c'est donc seule que ces femmes accouchent, souvent au domicile parental, sans chercher ensuite à rejoindre une structure pour des soins post-accouchement. De terribles récits dont les journaux sénégalais parlent fréquemment.
La presse rapporte régulièrement des cas d'infanticide, mais le blâme repose toujours sur cette femme qui a tué un enfant.
Militante féministe depuis les années 60, la sociologue sénégalaise Fatou Sow dénonce une société qui porte le blâme uniquement sur les femmes et déresponsabilise les hommes.
Jamais on se demande dans quelles conditions, où est le conjoint ou le partenaire ou l'homme qui est à l'origine de cette grossesse. Jamais cette question n'est posée. Et personne ne se demande si, est-ce qu'elle a fait dans un moment de désespoir. Il y avait une telle impossibilité sociale de porter cet enfant qu'elle accomplit l'infanticide. Personne ne pose la question.
Pauvreté, isolement, crainte du déshonneur, c'est dans un certain contexte que ces femmes passent à l'acte. Pourtant, la prison est la seule réponse apportée par la société. L'infanticide est puni de 5 à 10 ans de prison au Sénégal et ce sont pratiquement les mêmes peines qui sont appliquées, souvent 5 ans, parfois 6 ou 7.
J'étais là-bas dans la détention, mais ce que j'ai vécu là-bas, c'est tellement dur. Tu vois les gens qui meurent là-bas. Moi, j'ai assisté deux gens qui sont morts devant moi à l'hôpital.
Ces Sénégalaises passent 2 à 3 ans en détention préventive en attendant leur procès, des années d'incarcération, sans jamais aucun suivi psychologique alors que les auteurs d'infanticide se trouvent bien souvent dans une situation de grande confusion mentale. Mohamed Souma, médecin légiste.
Une femme qui, au départ, n'est pas forcément délinquante, mais qui n'arrive pas à supporter le poids de notre société qui lui dit « vous ne pouvez et ne devez avoir d'enfants que dans un cadre bien précis, celui du mariage ». Et cette femme qui est incarcérée, qui n'est pas délinquante au début, elle a commis un acte délictuel, c'est vrai, c'est un crime. Nous trouvions, lorsque nous faisions nos études, que, à la limite, la réponse judiciaire créait un autre problème. La femme sortait de cette incarcération comme une vraie délinquante cette fois-ci. Nous avons fait des études, il y en a beaucoup. La réponse que nous, société, y apportons pour le moment n'est pas forcément la bonne. Il faudrait, à mon avis, trouver des solutions alternatives.
André Tiakan, avocat.
La loi, intrinsèquement, elle est bonne. Parce qu'il faut effectivement réprimer les décès survenus dans ces circonstances-là de bébés sans défense. Mais il faut également, à mon avis, apprécier les causes pour en arriver à une meilleure appréhension de la répression de l'infanticide.
D'autres réponses pourraient être mises en place pour diminuer le nombre d'infanticides. S'assurer par exemple que tous les jeunes ont accès à des informations sur le fonctionnement de leur corps et sur le droit des filles à dire non. Au Sénégal, parler de sexualité en famille reste un tabou. C'est donc dans les collèges et les lycées publics qu'il est possible d'agir. Il existe déjà une matière appelée cours d'économie familiale qui aborde notamment la question de la sexualité mais qui reste optionnelle et que certains établissements n'intègrent pas dans leur cursus. La société civile demande donc l'instauration de séances obligatoires dédiées uniquement à l'éducation sexuelle et qui sensibiliseraient aussi à des problématiques comme le consentement et les violences de genre. Abdoulaziz Mandian de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial.
Pour nous, l'école étant un cadre formel organisé, ça pourrait être un pilier important. Et nous travaillons aussi avec les parents, nous le faisons aussi avec les enseignants. Donc nous formons des enseignants à l'école pour leur permettre à des heures libres d'aborder ces questions-là entre enseignants mais aussi entre élèves. Une fois que les élèves auront la bonne information sur leur sexualité, ça éviterait les grossesses précoces et d'éviter des comportements qui peuvent leur nuire par rapport à leur bien-être et à leur santé.
Il faut ensuite régler le problème de l'accès aux méthodes contraceptives. Avec un taux d'accès de 22%, le Sénégal s'en sort mieux que beaucoup d'autres pays de la sous-région. Mais trop de Sénégalaises sont encore mal informées. Beaucoup, dans les milieux ruraux, ne savent rien de la planification familiale. Fatou Sow.
Aux toutes jeunes filles, il est extrêmement difficile de recevoir une contraception parce que pour le corps médical, elle ne devrait pas être dans la sexualité parce que c'est contraire aux mœurs. C'est contraire à la religion et c'est contraire à plein de principes dans lesquels les médecins et le corps médical est encore empêtrés. Et ça, c'est en ville. Aller trouver une contraception en milieu rural, si vous n'allez pas à la pharmacie, qui n'existe pas forcément, ou dans un centre sanitaire qui donne la contraception, vous n'avez pas accès à la contraception.
Et certains proposent aussi d'instaurer l'accouchement sous X, de faciliter l'adoption et surtout de dépénaliser l'avortement, qui n'est autorisé au Sénégal qu'en cas de risque pour la vie de la mère. Un réseau d'associations milite ainsi depuis plusieurs années pour une dépénalisation de l'avortement en cas de viol, sans réussir pour le moment à faire changer les mentalités sur la question.
L'État sénégalais a continué une législation française qui était anti-avortement. Alors que maintenant, en France, la loi autorise l'avortement, nous, on a continué à la refuser. Et lorsque les femmes tuent leur enfant, au fond, il n'y a pas d'excuse. Hein, mais il y a des faits que ça qu'il faut comprendre. Et pourquoi on n'en arrive pas là, il y a des mesures à prendre. Il faut rendre l'avortement légal.
autre solution, accompagner les femmes enceintes et désocialiser. Dans un ancien palais de justice de la banlieue de Dakar, la Maison Rose accueille des jeunes filles venues de tout le pays, souvent enceintes, parfois parce qu'elles ont été violées, et dont beaucoup ont été rejetées par leur famille, sont en fugue ou ont été mises à la porte de chez elles. Radhi et son bébé sont pensionnaires de la Maison Rose.
En nuit, mon beau-père est venu dans ma chambre. Je ne l'avais pas fermée. Il est venu avec un couteau. Il m'a violée. Et là, j'étais enceinte. Et là, que ma mère est venue et mes tantes. On a dit qu'ils vont faire une avortation. Je ne peux pas garder ce bébé. C'est là que la police est venue, a dit que non, il ne faut pas toucher le bébé, il ne faut rien faire, il faut laisser comme ça. C'est là que je suis venue à Dakar, chez mon papa, avec ma grossesse. Mon papa est en colère, il ne me parle plus. J'ai dit pourquoi mon père ne m'a pas compris. Parce que moi, je n'ai rien fait dans cette histoire.
C'est grâce à la Maison Rose que Radhi a réussi à surmonter l'épreuve de son viol et l'impossibilité légale d'un avortement. Grâce à la Maison Rose, toujours, qu'elle a pu assumer la naissance de sa petite fille. Pourtant, tout dans le destin de Radhi l'a prédestinée à rallonger la longue liste des Sénégalaises qui, seules et désespérées, tuent leur bébé à la naissance. Radhi, comme les autres pensionnaires de la Maison Rose, dispose d'un suivi psychologique et participe chaque jour à des ateliers à visée thérapeutique. Yoga, poterie, cours de dessin, théâtre et écoute de conte.
Des orphelins vivaient ensemble dans la maison du grand frère. L'épouse du grand frère a confondu les deux hommes qui étaient identiques. Elle s'est donc couchée près du petit frère. Alors son mari a vu la scène et a tout de suite pensé que sa femme lui était infidèle.
Donc, je suis fogné infidélité. Ce que j'ai retenu dans le conte, c'est que tout ce qui peut se passer, on doit pardonner.
Grâce à l'encadrement et au soutien de la structure, en 9 ans, les résidentes de la Maison Rose ont mis au monde plus de 130 bébés issus de grossesses pourtant non désirées, des enfants qu'elles apprennent à aimer et qu'elles élèvent au sein de la Maison Rose.
En venant ici, on m'a appris beaucoup de choses et ça m'a permis de bien garder mon enfant. Moi, au début, je pensais à ça, mais dans un moment, j'ai dit, pourquoi tuer ces enfants? On n'est pas obligé de faire quelque chose de mal quoi, à ces enfants, parce que ces enfants n'ont rien à voir avec ça, parce que ces enfants sont des innocentes. Quoi.
Même dans le cas de viol, on leur apprend à avancer sur leur histoire, mais pas en se retournant derrière avec leur sac à dos.
Mona Chasserio est la fondatrice de la Maison Rose.
Vous arrivez avec un bébé que vous n'avez pas voulu, c'est apprendre à aimer ce bébé. Il faut savoir que quand elles arrivent, elles veulent toujours abandonner le bébé. Toujours presque, elles nous disent « non, je ne le veux pas ». Et puis comme dans cette maison, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup tout ça, tout d'un coup, elles se mettent à sentir ce qu'il y a dans leur ventre.
Que l'État sénégalais prenne en charge ces jeunes femmes enceintes, fragiles et susceptibles d'en arriver à ôter la vie à leur bébé, et que cela n'émane pas uniquement d'initiatives privées. Voilà ce dont le Sénégal, si frileux sur la question de l'avortement, a peut-être besoin pour arriver à diminuer le nombre incroyablement élevé d'infanticides.
Je veux dire que l'État cherche un endroit pour les femmes rejetées par la famille. Parce que si la famille les rejette, on n'a pas l'endroit où aller. Et ça amène la cause de l'infanticide. La société, on doit refaire. Je pense à bébé. J'ai 2 enfants. Je pouvais la tenir, de la regarder comme les autres. Mais il y a des moments, je ne dors pas la nuit. Je pense à ça à tout moment. Ça ne peut pas sortir, mon. Ça, mon, je ne peux pas l'oublier.
Infanticide au Sénégal, des mères bourreaux ou victimes, un grand reportage de Lou Garçon, Emmanuel Landais et Maria Matiam.